Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Urgence absolue en RDC. Des centaines de milliers, oui, des centaines de milliers d'enfants sont en danger de mort dans le Kassaï, selon l'UNICEF. Les législatives en Irak, bureau de vote ouvert jusqu'à 17h de Paris. Portrait dans cette édition du journaliste qui avait lancé ses chaussures en direction de George Bush. Muntasir al-Zaidi entre en politique à la faveur de ce scrutin. Après le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, Téhéran s'emploie à trouver des soutiens. Première escale diplomatique aujourd'hui à Pékin. Enfin, la question posée ce samedi par la Bulle Écho, comment mesurer les écarts de salaire homme-femme ? C'était il y a un mois à Genève, dans les locaux des Nations Unies, l'ONU, dont le secrétaire général déclarait la République démocratique du Congo, expérimente l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Et Antonio Guterres de rappeler que des millions de gens souffrent et que le manque de financement est le seul obstacle majeur. Des millions de gens souffrent dans le sud Kivu, dans la région de Tanganyika et dans le Kassaï. Le Kassaï où, selon l'UNICEF, 700 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 400 000 sont gravement dénutris et menacés de mort. Guillaume Périou a sollicité Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF. Il était sur place le mois dernier.
Du fait des violences l'année dernière, des centaines de milliers de familles ont dû quitter leur village et sont restées avec leurs enfants, parfois un mois, parfois six mois, dans la brousse, sans accès à de l'eau propre, sans accès à de la nourriture correcte. Si bien que beaucoup d'enfants ont basculé dans cette malnutrition aiguë, sévère, leur vie est en danger. La moindre petite fièvre, la moindre petite infection, souvent les emporte. Ils ont des œdèmes, ça commence souvent des œdèmes aux chevilles, dans les membres inférieurs. Les cheveux sont jaunes et puis on voit leurs côtes. Il faut dans ces cas-là vite réagir avec une réponse nutritionnelle pour que cette province retrouve ses habitants, la normalité d'il y a encore 3 ou 4 ans. Il faut leur donner une pâte nutritive d'urgence, il faut leur donner des antibiotiques, il faut évidemment aussi s'occuper d'eux heure par heure. On a besoin d'une somme de 88 millions de dollars pour faire face à cette réponse d'urgence au Kassaï. Le problème, c'est que il n'y a qu'un quart des financements qui arrivent, soit par manque d'attention sur cette province, soit par manque de compréhension de la gravité de ce qui se passe en termes de malnutrition. Nous nous attendons, s'il n'y a pas des moyens supplémentaires alloués à la réponse nutritionnelle à cette province, nous nous attendons à une forte augmentation de la mortalité.
Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF. L'autre inquiétude majeure en RDC vient de la région de Bikoro, au nord de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. L'OMS y a recensé 32 cas de fièvre Ebola. Il aura fallu priver l'organisation État islamique d'un territoire pour inviter le pays à une nouvelle consultation politique. Ce fut chose faite et chose dite par le Premier ministre irakien Haider al-Abadi qui, en décembre dernier, proclamait la victoire sur l'appareil djihadiste. L'Irak vote aujourd'hui pour renouveler les 329 sièges de son Parlement, 87 listes en compétition, 900 000 policiers et militaires en alerte. Les cellules terroristes dites dormantes n'ont pas été éradiquées. Le fléau politique numéro 1 reste la corruption. Les chiites partent en rang dispersés face à des Kurdes en perte de vitesse après l'échec du référendum d'indépendance organisé en septembre dernier et des sunnites plus que jamais marginalisés. Il existe toutefois des attelages politiques qui enjambent les appartenances confessionnelles, ainsi celle de la marche pour les réformes conjointement conduite par le leader chiite Moqtada al-Sadr et les communistes. Sur cette liste, l'on trouve une figure qui eut son heure de gloire, Muntasir al-Zaidi, journaliste irakien qui, souvenez-vous, le 14 décembre 2008, avait lancé ses chaussures en direction de George Bush lors d'une conférence de presse en Irak. Sami Bourelifa l'a rencontré à Bagdad.
Assis en tailleur sur son canapé, Muntasir al-Zaidi nous reçoit dans sa maison à Bagdad. À ses côtés, des membres de son équipe de campagne et une télévision internationale. Elle tourne un documentaire sur celui qui s'est opposé autrefois à la présence américaine en Irak.
Le 14 décembre 2008, j'ai jeté mes chaussures au visage de George Bush, le criminel. Cela traduisait la colère du peuple irakien qui refusait de vivre sous le joug de la colonisation américaine.
Torturé, emprisonné durant 9 mois, dont 3 passés à l'isolement, à sa libération, le journaliste devient militant des droits de l'homme. Avec le départ des troupes américaines, il rêve d'un avenir glorieux pour l'Irak. Les choses ne se passent pas comme imaginé.
J'ai décidé de briguer un mandat de député pour lutter contre la corruption et défendre les droits de l'homme. Le journalisme est étroitement lié à la politique. Et qui de mieux qu'un journaliste pour faire ce travail? Un religieux? Certainement pas. Je suis le fils du peuple, le fils des pauvres qui comprend la douleur des plus démunis.
Muntadhar el-Zaidi se présente sur une liste électorale inédite en Irak, une alliance de leaders chiites et de communistes.
L'Irak et l'Iran ont depuis toujours des destins étroitement liés pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, l'un tente de s'offrir, on vient de l'entendre, un peu d'horizon politique et l'autre endure les choix d'une administration américaine venimeuse. Téhéran se trouve en effet dans le viseur de Donald Trump. Le président américain déchire un accord qui en 2015 engage Téhéran à ne plus développer son nucléaire en échange d'une ouverture de son marché. Enfin, c'est plus que ça, une ouverture au monde, au fond. C'en serait fini. Alors Téhéran, on va y venir dans un instant, Téhéran va chercher des appuis et attend des soutiens européens, comme le soulignait ce matin Caroline Brouet, le géographe et spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade.
L'accord nucléaire, lui, il est là, il restera d'une façon ou d'une autre, même si l'Iran reprend l'enrichissement, ce sera de façon symbolique. L'Europe, la balle est dans son camp. Ne pas oublier qu'en 2003, nous sommes en 2003 aujourd'hui, les États-Unis ont écrasé l'Irak, ils veulent écraser l'Iran. À ce moment-là, Chirac dit « Niet, je ne veux pas participer à la guerre contre l'Irak » et il envoie Devi Lepin à Téhéran pour signer le premier accord nucléaire en 2003. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Et cette EU3, les trois Européens, ont fait ce premier accord extrêmement solide, le même pratiquement que celui d'aujourd'hui. Les États-Unis n'en ont pas voulu. Ils voulaient changer le régime. Ils disaient « Je ne veux pas discuter avec les Iraniens, je ne veux pas d'Iran, je veux l'Iran, pays voyou, un pays de rien du tout ». Et donc, la balle est dans le camp européen. Et aujourd'hui encore, les Européens disent à nous de jouer. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de jouer contre les États-Unis? Parce que le débat aujourd'hui n'est plus politique, il est économique. Est-ce qu'on met en place un système économique pour pouvoir protéger nos entreprises qui sont en Iran? C'est ça l'enjeu. Peugeot est là, il a engagé une production industrielle considérable. C'est 18%, je crois, de la production de Peugeot qui est en Iran. C'est colossal. Si on dit à Peugeot, tu prends tes valises demain matin, imagine les conséquences économiques en France. Et l'Allemagne, c'est bien pire. Donc la question est économique, est-ce que l'Europe peut faire ça? Mystère.
La diplomatie, la clé est là. Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, sera mardi à Bruxelles, venant de Moscou, et il est arrivé aujourd'hui en Chine. Angélique Forget est à Shanghai.
En se rendant à Pékin, Mohamed Jawad Zarif le sait, c'est avec un allié qu'il va discuter. La Chine s'était beaucoup investie dans les négociations pour aboutir à la signature de l'accord de Vienne en 2015. Alors forcément, aujourd'hui, Pékin dénonce vivement le retrait des Américains. « Nous poursuivrons tous nos efforts pour préserver et appliquer l'accord », a déclaré le ministère des Affaires étrangères chinois. Preuve en est, en fin de semaine, la Chine a inauguré une ligne de train de fret entre Bayanur, dans le nord du pays, et Téhéran. Une liaison comme un message envoyé à Donald Trump, la Chine continuera de commercer avec l'Iran malgré les risques de sanctions américaines. Ces dernières années, les relations commerciales entre la Chine et l'Iran se sont intensifiées. La Chine achète beaucoup de pétrole iranien et investit dans le même temps dans le secteur énergétique. Et puis l'Iran est un pivot, un point essentiel dans le vaste projet chinois des nouvelles routes de la soie. Pékin n'entend pas se laisser dicter sa conduite par Washington et le dossier iranien pourrait bien se transformer en nouveau sujet de désaccord entre la Chine et les États-Unis.
Il est 12h38, vous écoutez le journal de France Culture. Le 21 décembre dernier, Mariano Rajoy convoquait des élections après avoir destitué le gouvernement catalan qui avait proclamé l'indépendance. Mais une majorité indépendantiste l'avait à nouveau emporté. Depuis décembre, les indépendantistes ont présenté 3 candidats à l'investiture, mais l'un était le président destitué, Carles Puigdemont, qui se trouve en Allemagne après avoir fui l'action de la justice. Un second est en prison préventive et un troisième fait également l'objet de poursuite. Cette fois-ci, le quatrième candidat a toutes ses chances. Joachim Torra n'a pas d'ennui avec la justice et peut briguer librement l'investiture des députés catalans. L'audience a commencé il y a une bonne demi-heure. Premier tour aujourd'hui, second tour après-demain. C'est une correspondance de Madrid de Mathieu de Taillac.
Aujourd'hui, Quim Torra doit convaincre une majorité absolue des députés catalans de voter son investiture. On sait déjà qu'il n'y parviendra pas. Deux partis indépendantistes voteront oui. La formation de Carles Puigdemont, le président destitué, Junts per Catalunya, de centre-droit, et Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, de centre-gauche. Ces deux partis rassemblent 66 députés sur 135, alors qu'il en faudrait 68. Le troisième parti sécessionniste, la Candidatura d'Unitat Popular, la CUP d'extrême-gauche, n'a que 4 députés, mais ils sont décisifs. Et la CUP se débat entre le non et l'abstention. Non, si c'est l'aile idéologique d'extrême gauche qui l'emporte. Oui, si c'est la faction pragmatique indépendantiste qui prévaut. Cette position n'a pas de grande importance aujourd'hui, puisque seul un oui de la coupe permettrait l'investiture de Tora à la majorité absolue, mais le vote de la coupe sera décisif lundi, au deuxième tour, qui se joue à la majorité relative. La session d'aujourd'hui servira de répétition générale et de round d'observation. Tora sera-t-il sur la ligne radicale qui lui a fait écrire des tweets injurieux envers les Espagnols par le passé ? Il s'en est excusé hier. Jouera-t-il du coup l'apaisement avec Madrid lors de son discours ? Rien n'est moins sûr. Tora a parlé de lancer un processus constituant, autrement dit, une nouvelle phase d'affrontement politique et juridique avec les autorités espagnoles. Les premiers débats donneront une idée du climat des prochaines années dans une Catalogne plus divisée que jamais.
La bulle économique.
Le gouvernement français a présenté cette semaine son plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle. Tout le monde s'accorde sur l'objectif de diminuer les écarts de salaire, mais la manière de les évaluer fait débat. Égalité homme-femme, comment mesurer les écarts de salaire ? La Bulle Éco est signée ce samedi. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour. Les femmes restent toujours bien moins payées que les hommes et cela ne change guère. En octobre dernier, un rapport de l'OCDE notait que les écarts de salaire ne baissent plus depuis le début des années 2000. Pourtant, en France, ce principe d'égalité est depuis longtemps rappelé par la loi. Les lois même, les textes s'accumulent depuis 1983. Par exemple, depuis 2012, les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de négocier un accord sur l'égalité professionnelle. Or, seuls 39% d'entre elles l'ont fait et surtout, la plupart de ces accords ont peu d'effets concrets, comme l'a montré une étude récente commandée par la DARES.
La première loi sur l'égalité professionnelle, je n'étais même pas née. J'ai 35 ans, ça veut dire qu'à l'échelle d'une génération, il n'y a pas eu de progrès sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Le Forum économique mondial a calculé que l'égalité professionnelle au niveau mondial, elle serait atteinte en l'an 2234. Donc tout l'enjeu de la France, c'est de ramener ce chiffre à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Comment, comme l'avance la secrétaire d'État Marlène Schiappa, rendre enfin la loi effective. L'idée du gouvernement actuel pour résorber les écarts salariaux, c'est de faire en sorte que les entreprises n'aient plus seulement une obligation de moyens, mais bien de résultats. L'exécutif prévoit d'intégrer cela dans la future loi Pénicaud. Sur le papier, l'objectif d'égalité est plutôt consensuel, mais au moment d'en définir les modalités de mise en œuvre, cela se complique. Pour l'instant, ces dernières restent floues. L'idée générale, c'est d'avoir une méthode de calcul des écarts de salaire et de la déployer dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés d'ici 2020. Elles auraient alors 3 ans pour faire des rattrapages de salaire sous peine de sanctions financières. C'est là que les questions commencent. À quelle mise en conformité seront contraintes les entreprises ? Autrement dit, comment seront évalués les écarts de salaire à combler ? De la méthode retenue dépendra l'efficacité et surtout la portée de la mesure. Pour la définir d'ici l'été, une mission a été confiée à la DRH France de Schneider Electric. Certains critères font consensus, diplôme, âge, catégorie d'emploi, mais pour d'autres, comme l'ancienneté, l'expérience ou encore la complexité des tâches effectuées, c'est plus compliqué. Si l'on regarde l'écart de salaire entre femmes et hommes à poste et âge équivalent, il est en moyenne de 9%. Seulement, se concentrer sur ce chiffre ne suffit pas à résoudre la question des inégalités salariales, car il ne correspond qu'à une partie des écarts, la discrimination pure, dite inexpliquée. Or, il existe par ailleurs tout un tas de causes bien connues, elles, à l'origine des inégalités. Les femmes sont plus souvent à temps partiel, choisies ou imposées par l'employeur, font moins d'heures supplémentaires, elles accèdent plus difficilement aux promotions, d'où cette question, faut-il regarder les écarts de salaire à un instant donné ou la carrière dans le temps ? Surtout, l'objectif est souvent résumé par cette phrase « à travail égal, salaire égal ». Seulement, ce dont parle la loi, c'est d'égalité de rémunération à travail égal ou de valeur égale. Et c'est précisément là que le bât blesse. Certains emplois sont majoritairement occupés par des femmes, d'autres par des hommes. Chaque branche professionnelle établit des critères de compétences et de rémunération par métier. Or, les emplois les plus féminisés sont en général sous-valorisés. Dès lors, avancer qu'une tâche est moins complexe peut suffire à justifier en quelque sorte un salaire moins important. Ces métiers se retrouvent donc structurellement moins bien payés. Dire qu'un homme et une femme doivent avoir un salaire égal pour un travail identique ne résout pas ce problème. C'est donc à cela qu'il faut s'attaquer, préconisent de nombreux économistes. Dans une tribune publiée en avril dernier, un collectif de chercheurs préconisait de décider collectivement que les métiers traditionnellement très féminisés ont une valeur économique supérieure à celle qu'ils ont aujourd'hui. L'égalité salariale n'est pas l'égalité économique.
La bulle éco à retrouver sur franceculture.fr. Les très grandes lignes météo de l'après-midi, orages et pluies soutenues de l'Occitanie au Limousin, Auvergne, le centre et l'Île-de-France. Même scénario sur le relief des Alpes et du Jura, temps variable sur toute la façade atlantique. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Jean-Guy Linmège.